Bonjour tout le monde. Chaque fois que je commence et que je dis bonjour, je pense à... Ça, c'est les vieux qui connaissent. Yves Mourouzi, vous vous rappelez? À 13h, le journal du 13h. Bonjour. Oh, c'est Michel Jonton, qui est charnel. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? J'ai une bonne nouvelle pour vous de la communauté, vous le savez déjà, mais c'est les frères et sœurs qui nous écoutent sur le net, ils savent peut-être pas. Mais dimanche prochain, nous aurons Nicolas Saradogo qui prêche ici. Alors, je suis très content, je n'ai rien dit du tout, mais je suis très content parce que on va organiser mon prochain voyage donc là-bas avec Olivier. Au Burkina Faso et aussi en Côte d'Ivoire. Et je ne lui ai rien dit à Nicolas, mais on n'y va pas les poches vides. Et on va pouvoir faire des tas de choses magnifiques. Alors, je voudrais remercier les donateurs principaux du mois de novembre. Il y a Charef Douache, il y a Elisabeth Bonnet, il y a Samuel Cantrel. Merci, 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 merci. Je ne sais pas comment vous dire merci. Mais ouf, c'est moi qui vais en plus avoir tout le bonheur de voir la tête des gens qui vont être bénis par tout cet argent que vous avez envoyé. J'aimerais tellement que vous puissiez venir avec moi. En tout cas, merci et Dieu ne manquera pas de vous bénir pour tout ce que vous avez fait. Merci infiniment de la part du Seigneur. Je dois dire que le mois de novembre était particulièrtement fort. Je sais pas, pourtant j'ai pas prêché particulièrement, donc ça vient pas de moi, hein. C'est sûrement le Saint-Esprit qui vous a mis à cœur, je sais pas. Ben, je me suis écouté, j'ai dit non, moi si j'écoutais un mec qui prêche comme ça, j'y donnerais rien. Non, c'est pas vrai, je plaisante. C'est un homme d'affaires qui m'a dit l'autre jour, je lui demandais rien, hein. Il me dit, moi j'en ai pas. Je dis, ah bon, je lui demande rien. Je sais pas, il a eu peur que je lui demande quelque chose. Les gens sont bizarres. Bon, écoutez, ce matin, c'est la suite un peu de ce que j'ai prêché vendredi. Pour certains d'entre vous ici, ça va être une aimable répétition. Mais comme nous avons des nouvelles personnes qui viennent écouter sur Révélation Bible, ben, je pense que c'est nécessaire de dire ça parce que ce sont des choses qui concernent notre époque. Alors c'est important, non?
Oui.
Bah oui. Donc on va commencer à faire une lecture dans Apocalypse chapitre 6 et verset 4. C'est Jean, l'évangile de l'Apocalypse de Jean. Alors il voit donc l'agneau qui ouvre les sept sceaux, hein. Donc, il faut comprendre, c'est des livres, c'est pas des codex, c'est des livres rouleaux, et puis il y a un cachet dessus, hein, comme on faisait autrefois. Moi, je trouve que c'est très beau le cachet. Et puis c'est un sceau. Et puis quand il casse le sceau, après on peut ouvrir, n'est-ce pas, le livre et puis lire. Donc, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Voilà, ça c'est un texte, maintenant on va lire un autre, on va lire trois. Matthieu 24, 9, 14. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, l'illégalité, l'injustice se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Puis on va faire une dernière lecture dans Apocalypse 3, verset 14. C'est Jésus qui dit d'écrire à l'ange, c'est-à-dire à l'apôtre, à l'envoyé, hein, à l'homme qui a été envoyé pour paître l'église de Laodicée. Donc, vous serviteur de Dieu. On n'écrit pas à des anges, on n'envoie pas des lettres avec un timbre pour envoyer à un ange. C'est comme les enfants qui écrivent au Père Noël. Voilà, donc. Écrit à l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Donc Jésus. Je connais tes œuvres. Donc il parle à l'Église. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voilà les trois textes que je voulais vous lire ce matin. On va y revenir. De nos jours, plus que jamais, les gens s'étourdissent et sont étourdis et veulent bien être étourdis pour ne pas penser aux réalités de ce monde. On s'occupe de choses futiles parce qu'on a peur. Les gens ont peur. Ils ont peur. Et comme les gens de ce monde n'ont jamais été en communion avec les morts comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, ils ont encore plus peur de leur propre mort, et d'un autre côté, ils banalisent la mort des autres. C'est comme ça. On se regarde soi-même. Les autres, ben, tant pis. Ces trois textes sacrés que j'ai lus ce matin parlent de la même époque, de notre époque. Peut-être que vous ne le croyez pas. Bon, alors, écoutez ce que j'ai à vous dire, puis après, vous vous ferez une idée. Si vous n'y croyez toujours pas après ce que je vous dis, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que vous serez sauvés quand même. D'accord? Simplement, vous manquerez quelque chose parce que vous ne saurez pas ce qui se passe. Enfin, vous saurez moins bien ce qui se passe. Alors, c'est Jésus qui commence en disant, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Il disait ça à qui ? À des juifs, ses disciples. Mais aussi, il disait ça, il parlait d'une autre époque, d'un temps où ses disciples seraient mis à mort, les chrétiens seraient mis à mort. Durant notre époque, on a vu l'horreur de la Shoah, et puis maintenant, eh bien, c'est le tour des chrétiens d'être persécutés, et c'est pas une petite affaire. C'est quelque chose de terrible. Les juifs ont été massacrés sous le prétexte qu'ils avaient commis un déicide en tuant Jésus. Et nous, les chrétiens, nos frères et sœurs sont massacrés aussi à cause du nom de Jésus, parce que les adorateurs de Jésus sont considérés par ces assassins comme des infidèles. C'est toujours à cause de Jésus. Mais les juifs n'ont pas commis de déicide, je suis désolé, c'est Jésus qui a donné sa vie, et la petite histoire, ben, fallait bien que ça soit quelqu'un qui... Voilà. Jésus leur a pardonné. Si Jésus pardonne, c'est pas aux gens d'aller tuer les juifs en disant « vous êtes un peuple déicide », c'est diabolique. Et puis Jésus dit que, entre juifs et entre chrétiens, il y aurait des trahisons, c'est-à-dire que les chrétiens se trahiraient. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tension, et que l'autre juif aussi se trahirait les uns les autres, et que la haine s'élèverait, la charité du plus grand nombre se refroidit, hein, vous connaissez les textes. Eh bien, c'est ce que nous voyons. Les chrétiens se trompent d'ennemis et ils se persécutent mutuellement de toutes sortes de manières. C'est minable. Regardez-les s'insulter sur YouTube, mais regardez pas ça avant de vous endormir, ça donne des cauchemars, parce que la bêtise, c'est la chose qui... Moi, ça me fait peur, la bêtise, c'est terrible. Regardez cette haine, c'est effarant, ce mépris pour tout ce qui n'est pas conforme à leurs petites idées. Moi, si j'étais resté avec les idées que j'avais en 1968 quand je me suis converti, Mais j'aurais pas progressé. Heureusement que j'ai rencontré des bouquins. Heureusement que j'ai rencontré des gens, ça m'a fait évoluer. Et puis heureusement que j'ai regardé un petit peu en dehors, par-dessus la barrière de ma petite religion pentecôtiste pour aller voir. Et j'ai trouvé des choses remarquables, j'ai grandi, puis Dieu a pu me parler. Parce que quand Dieu voit un terrain comme ça, ben, il met quelque chose dedans. Mais quand il voit un terrain clôturé, bien gardé, avec une grosse cloche dessus, anti-missile pour pas que ça passe, ben, il n'y a rien qui se passe. Dieu peut rien dire. Pourquoi pensez-vous que Jésus ait dit « sortez du milieu d'elle », c'est-à-dire de l'Église ? Parce qu'elle est vomissable. Majoritairement vomissable. Ils ne sont pas tous les chrétiens qui sont là-dedans ne sont pas vomissables, mais leurs organisations, tous ces trucs-là, c'est vomissable. C'est devenu abominable. Je suis désolé de le dire, parce que je sais, je connais des belles personnes dans les églises, il y en a, c'est vrai, il y en a pas mal, c'est vrai, mais ces institutions sont corrompues de chez corrompues. Et même les petits pasteurs des églises locales, ils peuvent être gentils, mignons, tout plein, mais ils sont soumis à un bureau central qui les manipule. Non, mais c'est, il faut aller en pastoral pour le croire. C'est invraisemblable. Ensuite, Jésus dit que des faux prophètes apparaîtront. Vous voulez des noms ? On s'en fout. On les connaît. Et puis, Jésus dit que l'iniquité, l'injustice s'accroîtra. Pas besoin de dessin. Pour avoir le minimum d'informations au sujet de la justice, vous regardez la télé. Si vous voulez en savoir davantage, il y a d'autres médias qui racontent encore plus. Hein. Voilà. Si vous voulez, la télé, c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus grave, de chez grave, que ce qu'ils nous montrent à la télé. Ça fait partie aussi du plan de l'injustice, de nous montrer juste un peu, mais pas trop. Et Jésus dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors voilà le tableau peu réjouissant de notre époque. C'est comme ça. Alors, qui sera sauvé ? Alors, si vous lisez Marc chapitre 16, celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Ok. Si vous allez un peu plus loin, vous lisez si tu ne donnes pas à manger à celui qui a faim, si tu ne vas pas visiter le malade, etc., ben, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas simplement une question de croire. Et puis, si tu vas encore plus loin, là, ben, c'est si tu persévères pas jusqu'au bout, tu peux pas être sauvé. Jésus nous dit bien, je suis la porte. Puis quand on ouvre la porte, il y a un chemin. Et le chemin, il est long. Et il faut marcher dessus jusqu'au bout. Comment ? Ben, selon les règles de Jésus, qui sont dans les Saintes Écritures, et puis aussi, Dieu nous parle par notre conscience, et puis par les frères et sœurs, etc., etc. Je vous ferai un petit dessin, vous avez compris. Donc, il faut pratiquer les commandements de Jésus, observer ses ordonnances, celles des apôtres, etc. Et puis, Jésus dit que ce sera un temps d'évangélisation formidable, puisque l'Évangile sera porté jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qui se produit. On y participe d'ailleurs, puisqu'on va évangéliser un peu partout. Et puis alors il dit, et alors viendra la fin. La fin de quoi ? Pas la fin du monde, mais la fin du temps des nations. C'est-à-dire que la terre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des nations. Vous avez remarqué ? La fin du temps des nations. Alors, l'épouse sera enlevée, bon voilà, ça, tout ça vous savez, et l'homme impie se révélera, et il va accomplir pour la deuxième fois la prophétie de Matthieu 24, 15, mais en plus grand cette fois. Alors Matthieu 24, 15, vous rappelez, je vous en ai parlé vendredi, c'est ça, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Vous vous rappelez que je vous ai dit la dernière fois que en 70 Titus est arrivé, mais avant il y a eu toute l'histoire avec les zélotes en 68, en 69, il y a eu des moments de répit, et puis finalement c'était boum, et dans l'église il y a eu des divisions, il y a des gens qui ont quitté l'église, ils sont partis de Jérusalem croyant les paroles de Jésus, ils ont bien fait, et nous sommes sortis des églises et nous avons bien fait, et nous c'est un temps où Dieu nous laisse encore la possibilité de sortir de tout ce chenil, comme on dit en Suisse, pour pouvoir nous sanctifier, pour pouvoir vivre la parole de Dieu, et c'est très bien. Mais nous ne verrons pas, nous, celui qui s'installera sur le trône dans le temple à Jérusalem. Par contre, les chrétiens qui n'auront pas été fidèles et qui ne seront pas enlevés, eux, ils le verront. Vous voyez ? Vous comprenez ? J'espère que vous comprenez. Moi, je tout comprends. Pour moi, ça paraît très clair. Donc, la première fois, c'était à Jérusalem, c'était local, comme je vous le disais vendredi passé, mais maintenant, ça sera à l'échelle mondiale, parce que c'est la mondialisation, c'est plus les nations maintenant. Même l'Europe, tout le monde se plaint, oui, c'est Bruxelles qui décide. Attendez, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne vais pas faire de politique, c'est pas mon monde, je m'en fous. Qui se débrouille. Mais une chose est certaine, c'est que, voilà, on court à la mondialisation. Hein. Vous allez à Petauchnok, là, juste à côté, il y a un village formidable. Je dis ça, mais c'est vrai, hein. Un village qui s'appelle Montcuq. Eh bien, à Montcuq, on trouve les mêmes boutiques qu'à New York. Les mêmes jeans, les mêmes pulls, les mêmes boissons, les mêmes... C'est partout comme ça. Vous allez en Iran, c'est la même chose. Vous ne me croyez pas. Moi, j'y ai été, j'ai vu. Partout dans le monde, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Et là, ça sera un règne. Il va se proclamer Dieu. C'est un règne mondial qui va durer 7 ans. Et puis, Jésus reviendra pour régner 1000 ans, selon Apocalypse 23. Mais en attendant, où est-ce qu'on en est ? Là, maintenant, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, nous sommes dans le dernier âge de l'Église, l'âge de Laodicée, on vient de le lire, le temps de la tiédeur de l'Église, hein, je parle. Il parle à l'Église. L'Église qui est devenue vomissable, vous rendez compte ? C'est quand même terrible que Jésus parle comme ça, je te vomirai. C'est horrible. Je te vomirai. À quel point c'est vomissable. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, oui, Michel, tu critiques l'Église. Mais que voulez-vous que je fasse? Quand on a l'Esprit de Dieu qui dit, l'Église est vomissable, vous voulez dire quoi? Oh, ils sont merveilleux, c'est tellement bien. C'est tellement... Non, on peut pas. On est dans la mouvance de l'Esprit, on est obligé de reconnaître que c'est vomissable. C'est pourquoi on est sorti. Mais c'est pas d'hier qu'on est sorti. On est sorti exactement en 1977. Mais on n'est pas sorti de là pour pouvoir vivre exactement la même chose que du truc où on est sorti. On n'a pas reproduit le même schéma. On a voulu produire le schéma qu'on a trouvé dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire l'amour fraternel. Allez, oubliez le mot communautaire. On vit en communauté comme les premiers chrétiens, mais c'est parce qu'on a de l'amour fraternel. Voilà, c'est tout. Bon, vous avez déjà tous entendu ce que j'ai dit à ce sujet-là. Donc, cette église est vomissable, majoritairement les gens dans ces églises le sont. Alors, dans Apocalypse, vous relirez la Odyssée, ce qui dit, dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 3, verset 20, il y a 7 lettres qui concernent les 7 âges de l'église. Ça concerne l'église. Là. Et puis ensuite, vous avez les 7 sceaux qui doivent être brisés les uns après les autres, et ces 7 sceaux révèlent des prophéties qui concernent le monde. Faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger. Parmi les 7 sceaux concernant l'histoire du monde depuis Jésus jusqu'à la fin, il y en a déjà 4 qui ont été brisés. Et on peut lire, et on peut comprendre ce qui est écrit sous ces 4 sceaux. Pourquoi ? Parce que c'est déjà arrivé. C'est déjà accompli. Quand Jean voit ce qu'il y a sous le premier sceau, il voit quoi ? Il voit un cheval blanc. Tu en vas le lire, Apocalypse 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Voilà. Alors, la plupart des enseignants que j'ai entendus dans les écoles bibliques et des bouquins que j'ai lus, disent que ce cheval blanc, c'est Jésus. Ben, c'est pas vrai, c'est le diable. Et il est couronné, c'est-à-dire que c'est Dieu qui lui a donné sa couronne de prince de ce monde. Voilà. Il est le prince de ce monde. Il ne pourrait pas être le prince de ce monde si Dieu ne lui permettait pas d'être le prince de ce monde. Et c'est qui l'a couronné prince de ce monde? C'est pas la mère Denise, c'est Dieu.
C'est Dieu.
Et il est blanc pour tromper son monde. Il est blanc pour imiter Jésus, pour séduire l'Église. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans l'Église pour la corrompre jusqu'au point où on en est maintenant devenu vomissable. Bon. Alors il est armé d'un arc. Mais rigolo, mais c'est pas écrit qu'il a des flèches. Donc il n'est pas très efficace. C'est que le début. C'est que le début. C'est le début. Donc il est là, il est parti pour vaincre, mais il est un peu avec son arc. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il tape sur les gens, je sais pas, mais enfin il n'a pas de flèches. En tout cas, c'est pas marqué qu'il a des flèches. Donc il est limité dans son action. C'est tout au début. C'est tout au début. Il part pour vaincre. Il est décidé. Pour vaincre quoi? Pour vaincre la vraie Église et le monde en général. Mais il n'y a pas que le cheval blanc dans ce saut-là. Il n'y a pas que le diable. Il y a aussi un des quatre êtres vivants. Mais c'est quoi ces quatre êtres vivants? Alors, on les trouve, ces êtres vivants, dans Apocalypse 4, verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant semblable à un veau ou un bœuf, ça dépend des versions. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. C'est un être qui vient de Dieu. Si vous regardez bien au verset 6, il dit « Il y a encore devant le trône une mer de verre semblable à du cristal au milieu du trône et autour du trône. Il y a quatre êtres vivants remplis de Dieu d'œil, hein, devant et derrière, le premier, le deuxième, le troisième. » Donc, c'est des êtres qui viennent du trône de Dieu. Ce sont des bons êtres vivants. Qu'est-ce qu'ils ont comme responsabilité? De gérer l'Église de Jésus-Christ. D'un côté, vous avez le diable, puis de l'autre côté, vous avez les quatre êtres vivants. D'accord? Donc, le premier âge, dans le premier temps, dans une première période, eh bien, c'est cet être vivant qui a une tête de lion qui régit le premier temps de l'Église, l'Église primitive. Le lion, pourquoi? Parce que Jésus est appelé le lion de Juda et que dans les premiers temps, l'Église ressemblait à ce que Jésus voulait qu'elle soit, c'est-à-dire une Église fidèle avec les apôtres et la vie communautaire, l'amour fraternel. Il y avait des problèmes, mais on les réglait avec l'amour, avec les ordonnances de Jésus. Et c'était donc la parole du lion de Juda, de Jésus, était respectée, était vécue. Donc c'est ce temps dont parle Jésus dans Matthieu, au chapitre 24, versets 4-5, où il est dit: prenez garde que personne ne vous séduise. Qui c'est qui peut séduire? C'est ce cavalier blanc. Car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et séduiront beaucoup de gens. Voilà, on y est. Vous avez ce cheval blanc qui est là pour séduire. Il est parti pour vaincre, pour séduire, pour s'infiltrer dans l'Église. L'apôtre Paul le dira plus tard. Ils sont déjà parmi nous, puis il y en a qui sont déjà sortis de nous. Voilà, c'est la preuve qu'ils n'étaient pas des nôtres, etc., etc. Vous connaissez. Donc, voilà, ça c'est au sujet du premier sceau. Jésus en parle, mais il ne dit pas, voilà le premier sceau qui va avec Apocalypse. Non, c'est à nous, avec l'Esprit de Dieu, de chercher, de trouver, de comprendre. Heureux celui qui comprend, il y en a qui ne comprennent pas. Ils sont déjà heureux parce qu'ils lisent, c'est déjà pas mal, mais c'est bien mieux de comprendre, puis c'est encore bien mieux de garder ces choses-là. Quand le deuxième sceau s'ouvre, est brisé, Jean voit le cheval et son cavalier. Ça a changé de couleur. On va lire Apocalypse 6, 3, 4. Apocalypse 6, 3, 4. Deuxième sceau. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Donc il voit le cheval et le cavalier, c'est plus la même couleur, il est roux, et il enlève la paix de la terre, et c'est le temps dont Jésus parle dans Matthieu 24, 6. Quand il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. D'accord ? L'être vivant que j'en vois est semblable au deuxième qu'on a vu dans Apocalypse 4, c'est-à-dire à la tête de bœuf, de veau, qui est un animal de servitude, qui est un animal qui est destiné à la boucherie, et c'est l'image parfaite de l'Église qui était menée à la boucherie sous l'Empire romain, mais pas seulement l'Empire romain des empereurs, mais l'Empire romain papal aussi. Cette période, elle va jusqu'à la Réforme. Cette période, elle va jusqu'à la Réforme. Vous ne pouvez pas dire, le premier âge, ça va avec le premier sceau, le deuxième âge, ça va avec le deuxième sceau, et puis ça va avec la deuxième coupe. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est la pensée cartésienne. La pensée de l'esprit, c'est autrement. Ne serait-ce que la pensée moyen-orientale, c'est autrement, c'est différent. On pense autrement, on parle autrement. Et heureux celui qui trouve. Celui qui trouve, c'est parce qu'il cherche. C'est pas parce qu'il répète simplement ce que quelqu'un a dit. L'être vivant est semblable à un veau, c'est-à-dire à un être habitué à la servitude. Hein. Voilà. Et puis, c'est un gentil. Mais voilà, il est massacré. Abus de la religion, les bûchers qui s'allument, les guerres, des horreurs, tout ça. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont fui la France à cette époque. On était les Gentons, on était de Grenoble, et on a fui en Suisse. Il y en a qui ont fui en Allemagne, il y en a qui ont fui un peu partout, aux États-Unis. Mes grands-parents, c'était des nobles, des gens... Gentil, ça veut dire bien né, bien fait. C'est bien, hein? Et donc, on est parti en Suisse, on était accueillis dans un village qui s'appelle Saint-Saphorin, qui était au bord du lac Léman, qui est un beau village que je vous invite à visiter. Il n'y a qu'un restaurant dedans, mais quel bon restaurant, hein, chérie? Et Stéphane aussi, on a mangé là-bas une fois. Après un menu, on croyait que c'était le prix que c'était pour deux personnes. Non, c'était pour une personne, c'est cher, c'est suisse. Mais c'était extraordinaire. Et puis, alors, il y a un très très bon vin aussi. Je m'égare. Donc, mes arrière-grands-parents sont partis en Suisse, et voilà pourquoi je suis suisse aujourd'hui. Mais voyez, Dieu m'a ramené ici, dans ce pauvre pays de France. Voilà, manabala. Donc, c'est toute une histoire qui s'est passée, dont Jésus a commencé à parler, ensuite il a révélé dans Apocalypse, vous voyez, pour donner plus de poids, pour montrer encore davantage à ceux qui cherchent. Et puis le troisième sceau est brisé, Apocalypse 6, 5, 6, je résume, Apocalypse 6, 5, 6, alors là, il est dit... Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Le cheval, donc, change de couleur, il est noir. Mais c'est toujours le même cavalier, c'est toujours le diable. Mais là, il n'essaye plus de tromper son monde. Ils sont trompés, ils foncent avec, c'est bon. Il est noir et il tient les gens dans la terreur et dans l'oppression. C'est lui qui décide le prix de tout. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Il gouverne, ayant des ministres dans chaque commune d'Europe... d'Amérique, etc., etc. Ils ont des ministres. Vous voyez de qui je veux parler, Et puis, ils gouvernent les âmes, ils tiennent les gens. Par contre, s'il peut toucher à tout, il n'a pas le droit de toucher à l'huile et au vin, ce qui signifie qu'il n'a pas le droit de toucher aux choses de l'esprit et à l'ivresse que le Saint-Esprit donne. C'est l'époque dont nous parle Jésus dans Matthieu 24, 7. Alors il dit, c'est la suite. On vous livrera au tourment. C'est pas ça. 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Guerre. Je crois qu'on est desservi. On a eu les deux dernières guerres mondiales, et puis depuis les deux dernières guerres mondiales, il y a eu encore plus de morts que pendant les deux dernières guerres mondiales réunies. Voilà, et puis des bruits de guerre, c'est-à-dire que vous entendrez parler de guerre, et on en entend parler. Le matin quand je me lève, oui, ben je regarde mon ordinateur et qu'est-ce que je vois? Ben, ce qui s'est passé à l'autre bout du monde, on est au courant tout de suite, on entend les bruits de guerre, on entend tout ça. C'est l'époque de la recrudescence des tremblements de terre, c'est la recrudescence de la famine, c'est donc aussi des pestes, etc. Et c'est le temps de l'être vivant à tête d'homme, c'est-à-dire parce que l'Église et les choses de la foi ont été réfléchies. Il y a des gens qui se sont posés des questions et qui ont protesté. L'intelligence au secours de la foi. Parce que c'était du n'importe quoi, c'était devenu du n'importe quoi sous le deuxième sceau. Et c'est sous l'influence de Luther, le réformateur, ensuite il y a eu Wesley, il y en a eu d'autres, Calvin et compagnie, ils n'étaient pas parfaits, mais au moins ils ont réfléchi et puis ils ont protesté, ils ont dit non, c'est pas possible. Donc c'est une tête d'homme, l'animal à tête d'homme, ça veut dire c'est la tête d'homme, l'homme qui réfléchit, pas qui se laisse tout avoir sur tous les points. Et ça c'est sous le troisième sceau. Mais nous ne sommes plus sous le troisième sceau. Depuis 1977, le quatrième sceau a été brisé. Alors pourquoi je dis que c'est 77? Ça c'est très long à expliquer, et je vous expliquerai si vous voulez, écrivez-moi, je vous expliquerai. Mais là, je ne veux pas me lancer là-dedans, c'est trop long. Mais on sait que c'est ça. Et quand on regarde autour de nous, et qu'on demande même aux évangéliques et tout, qu'est-ce que vous constatez? Ben c'est vrai qu'à partir de 77, il y a eu un tournant dans la politique aussi. Ça a été le début de la fin des nations, vraiment, le commencement de la mondialisation. Et l'être vivant qui gère l'Église aujourd'hui, c'est l'être vivant à tête d'aigle. L'esprit de prophétie, c'est-à-dire l'esprit, cet animal qui voit de haut et qui voit loin. Alors on peut lire Apocalypse 6, 5, 6. Apocalypse 6, 5, 6. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. C'est aussi le temps où le cheval, le diable, est accompagné par la mort. Et pas seulement la mort. Depuis la première fois dans l'histoire de l'humanité, les portes du séjour des morts sont ouvertes et les morts sortent du séjour des morts et se baladent sur la terre accompagnant ce cheval verdâtre monté par la mort. Je suis désolé de vous le dire, mais on est plein de morts partout, il y a des morts partout. Les esprits des morts envahissent la terre, ils ont le pouvoir de tuer un quart de la terre, pas seulement un quart des humains, mais de la terre, de massacrer, de bousiller, de tuer, de tout foutre en l'air, un quart de la terre. Et voilà pourquoi je vous disais que les terriens, même s'ils s'en rendent pas compte, n'ont jamais été autant en communion avec la mort. On peut pas comparer comment c'était avant, puisqu'on n'était pas là. Mais les gens sont en communion avec les esprits des morts. C'est vrai, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est écrit, et puis on voit le résultat, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans ce monde, la mort, ça devient angoissant. Jésus parle dans Matthieu 24, 9, 14 de ce temps-là, il dit, alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, mort, voyez, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, alors aussi plusieurs succomberont, se trahiront, se haïront les uns les autres, pourquoi? Par la peur. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront, évidemment, ils veulent faire leur chou gras là-dessus, et ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Voilà ce que Jésus dit. Puis ensuite, il parle à Jean en particulier sur l'île de Patmos et il lui montre ce quatrième sceau qui s'ouvre avec la mort qui se balade sur la terre. Mes frères et sœurs, on n'a pas seulement à se battre contre la chair et le sang, comme dit l'apôtre Paul, mais contre des mauvais esprits, des démons, mais aujourd'hui, on n'a pas que ça. À l'époque où il y avait le cheval et son cavalier avec un arc, mais il n'y avait pas de flèche, il y avait juste des mauvais esprits, la chair et le sang. Mais aujourd'hui, en plus, on a les morts. Et ce n'est pas les plus gentils. Ce n'est pas les plus gentils qui se baladent sur la terre. Notre atmosphère, elle est empoisonnée par leur présence. Ils poussent les gens à s'entretuer. Ils poussent les gens à se suicider. Ils poussent les gens à s'allier pour tuer, pour commettre des attentats au nom d'un Dieu pas possible, pour massacrer des villes entières au nom de la loi, sous le couvert, n'est-ce pas, de la bienfaisance. Mais c'est épouvantable. La mort. Mais qui va me croire ? Je vous le dis, en vérité, trois plaies et quatre tondus. La plus grande majorité ne me croira pas. Ils diront, non, Michel, c'est une interprétation. Ça m'est complètement égal, hein, vous croyez ce que vous voulez. Hein. Un jour, si vous me le demandez poliment, je vous parlerai des sceaux 5, 6 et 7. Mais lisez-les déjà. Vous constaterez une chose étonnante, c'est qu'il n'y a plus de cheval. Pourquoi ? Parce que l'Antichrist se sera incarné, il vivra sur la terre en maître. Il n'y a plus besoin de cette vision du cheval, il est là, il sera là. Il n'est pas encore là, il est né si vous voulez, mais le cinquième sceau n'a pas encore été brisé. Et l'Antichrist n'est pas encore là. Mais si vous regardez les sceaux 5, 6, 7, il n'y a plus de cheval. Et il n'y a plus d'être vivant non plus. Pourquoi ? Parce que l'épouse de Christ a été enlevée et il n'y a plus aucun être vivant envoyé du trône de Dieu pour gérer l'église de Jésus-Christ. Ils sont livrés à eux-mêmes, ils seront persécutés, etc., etc., etc. Vous connaissez la grande tribulation pendant 7 ans. Il ne restera sur la terre que les tiédasses de Laodicée qui n'auront pas cru ce que l'Esprit dit aux églises, et ils passeront par la grande tribulation, et ça m'angoisse, ça me rend malade de penser ça, et c'est pourquoi je le prêche, c'est pourquoi je le dis, je l'enseigne à des pastorales, je l'enseigne devant plusieurs milliers de pasteurs en Afrique, ils me regardent comme ça, avec des yeux tout ronds, puis après, qu'est-ce qu'il y a à manger, on s'en fout complètement, mais c'est terrible de voir ça, c'est terrible de voir ça, ça m'angoisse, de voir que les gens sont aveuglés à ce point-là. Tu es aveugle, misérable et nu, mais tu ne sais même pas que tu es aveugle. Tu ne sais même pas. Tu ne sais pas. Voilà, c'est comme ça. Tous ces braves frères, ces braves sœurs qui aiment Jésus et qui ne partiront pas dans l'enlèvement. C'est grave. Ils sont trompés par une bande de faux prophètes qui détournent leur attention de la vérité sur des âneries. Sur des âneries. Ces faux prophètes leur racontent, par exemple, que la marque de la bête, c'est la puce RFID. Vous avez entendu ça ? Moi, depuis 10-15 ans, j'entends cette bêtise. Mais réfléchissez, on a déjà tous une, au moins une puce, au moins une dans notre carte d'identité. On en a une autre dans notre carte de crédit. On est fiché, on est suivi, on est observé. Par l'internet, on peut savoir ce que vous aimez, où vous êtes, quelles sont vos croyances. Par le GPS, on vous suit à la trace. Par la carte vitale, on connaît toutes les infos concernant votre santé. Tout ça, c'est fiché. Qu'est-ce qu'elle fera de plus, la puce ? Rien. Elle concentrera tout ça dans un tout petit machin, ce sera beaucoup plus pratique, mais c'est déjà, vous avez déjà la puce. Vous croyez que vous regardez la télé, mais vous gourrez complètement, c'est la télé qui vous regarde. Votre téléphone portable, c'est une puce espionne. Votre téléphone portable, c'est un espion que vous trimballez avec vous. Vous n'avez plus aucune intimité, rien. La puce RFID ne sera qu'une concentration de toutes ces puces que vous avez déjà tous. Alors la marque de la bête, c'est quoi ? C'est la marque du nom de l'homme de péché, de l'Antichrist. Il va poser une marque sur les chrétiens qui n'auront pas été enlevés. Tous les chrétiens portent déjà dans leur cœur un nom de blasphème. Tous les chrétiens qui ne seront pas enlevés, je répète bien, qui sont là aujourd'hui, peut-être qu'ils m'écoutent sur le net, ils ont déjà sur eux, ils portent déjà dans leur cœur, c'est pas sur leur tête et sur leur front, sur leurs mains, mais c'est dans leur cœur, un nom de blasphème. Ah bon ? Lisons Apocalypse 17, 1, 6. Apocalypse 17, 1, 6. Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Pourquoi ? Mais parce que Jean, il a vu ce qu'est devenue l'Église. Une pute ! Pardon, une grande prostituée. Une parapatète rétréticienne. C'est eux, Michel, t'as dit pute. Oui, ben voilà. Et voilà pourquoi Jean était étonné. Parce qu'il a vu l'Église, qu'elle est devenue une grande prostituée. La mère de toutes les prostituées. Pas de la pauvre femme que vous voyez dans un coin de rue sous un réverbère. C'est pas ces prostituées-là dont il est question. Cette femme est assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème. Vous voulez que je vous dise ces noms ? Ce sont des noms qui sont à l'opposé du nom de Jésus que nous devons porter. Jésus, c'est le nom de notre époux. Nous devons porter le nom de notre époux. Aujourd'hui, dans les gouvernements foutoirs, où on veut absolument détruire la cellule familiale, maintenant, les femmes, et ça c'est jamais vu dans le monde, peuvent prendre le nom, elles peuvent prendre leur, garder leur propre nom, pas prendre le nom de leur mari. Mais c'est quoi cette histoire ? Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir ? C'est... Une femme prend le nom de son mari quand elle l'épouse. Vous allez dire, t'es un macho. Oui, je suis un macho. Quand vous demandez aux gens s'ils sont chrétiens, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Oui, je suis catholique, mais pas pratiquant. Ils vous diront jamais qu'ils appartiennent à Jésus. Ils vont vous dire, je suis catholique. Ils vont vous dire, je suis protestant. Ils portent des tas de noms comme ça. Luthérien, calviniste, méthodiste, pentecôtiste, baptiste, frère large. Il manque plus que les frères coincés. Bref, tous des noms autres que le seul nom que nous avons apporté. Le nom de Jésus, notre époux. C'est comme si mon épouse disait « Oui, j'ai épousé la religion du mariage. » Sous le régime de la communauté. Ou elle dirait, quelqu'un dirait « Bonjour, soeur, vous êtes mariée ?»« Oui, je suis mariée, j'appartiens à un homme. »
Homme.
Mais qu'elle ne dise pas mon nom. Pourquoi elle ne dit pas mon nom ? Elle a honte de mon nom ? Elle n'ose pas dire « Janton ». Bien sûr qu'elle ose le dire. Elle est très fière de s'appeler Janton. Même si Janton est regardé comme un hérétique et tout ce que vous voulez. Les noms de blasphème, ce sont les noms que la mère des prostituées montées sur la bête porte, puisqu'elle est montée dessus. Elle les porte avec. Elle est avec. La mère des prostituées, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est de cette prostituée-là, excusez-moi, qui est l'Église catholique, cette église qui s'est prostituée avec des idoles, qui s'est prostituée avec des démons, qui s'est souillée, qui s'est roulée dans le sang des saints, les persécutant, brûlant, massacrant les véritables chrétiens. Eh bien, cette prostituée-là, elle a eu des filles, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont sorties d'elle. Quoi ? Ben, le protestantisme ! Le protestantisme, c'est une pute aussi, c'est pas les protestants, vous avez des protestants qui sont des braves chrétiens, mais l'organisation en elle-même, c'est une organisation qui est sortie de la grande prostituée. Et des protestants, qu'est-ce qui est sorti ? Les baptistes, l'organisation baptiste, c'est une pute. pas les baptistes, vous me comprenez bien ? Les baptistes peuvent être des très bons chrétiens, mais cette organisation est montée sur le même système, le même plan pyramidal que l'Église catholique. Ils ont peut-être pas un pape tout en haut, mais ils ont un collège central qui dirige tout et qui est infaillible. En dehors du baptisme, il n'y a pas de salut. Si tu... les baptistes vont jamais vous le dire. Mais si par exemple vous allez chez les baptistes avec votre baptême pentecôtiste, ils vont vous rebaptiser parce qu'ils ne croient pas que votre baptême pentecôtiste est juste. Vous comprenez ? C'est comme ça. Donc, ensuite, des baptistes sont sortis quoi ? Les pentecôtistes, vous voyez ? Donc, la mère des prostituées. La grande prostituée, elle est maman. Et elle porte des noms de blasphème. C'est tous ces noms-là. Alors, quand le faux prophète paraîtra, il va fédérer toutes ces religions, toutes ces putes, pour en faire une dont il se proclamera être le Dieu, pour former la religion officielle mondiale, mais vraiment. Et ceux qui n'en voudront pas, ils sont déjà affichés. On sait où ils habitent, on sait ce qu'ils aiment, on sait ce qu'ils bouffent, on sait ce qu'ils regardent, on sait tout sur eux. Eh ben, il n'y aura pas de problème. Quand on viendra pour les convoquer pour porter le nom de l'Antichrist sur leur tête, ou un signe quelconque, un symbole qui représentera leur appartenance à l'Église mondiale, ils diront non. Et alors, étant donné qu'ils n'auront pas cette marque, ils ne pourront ni acheter ni vendre. Point barre. C'est pas une question que tu n'auras pas la puce, donc tu ne pourras pas passer au magasin. Ça, c'est des idioties, des scatologues débiles qui vous racontent des choses comme ça. Pardon, je m'énerve là. Mais ça m'énerve tellement, et ça m'angoisse tellement de voir que le peuple chrétien devient si bête. Mais si bête. On les désignera comme des rebelles, comme des insoumis à l'Antichrist qui sera un grand bienfaiteur. Mais mes amis, mais pourquoi vous pensez qu'ils vont suivre l'Antichrist ? Mais parce que ça sera un grand bienfaiteur. Il fera des miracles extraordinaires. Il supprimera les famines. Il aura un don de guérison extraordinaire. Il pourra guérir les gens. Il pourra nourrir tout le monde. Ça sera extraordinaire. Et voilà pourquoi les gens penseront que c'est Dieu. Ils ne penseront pas que c'est Dieu parce qu'il est joli. Est-ce que vous comprenez ? C'est un chiffre d'homme. Alors je sais qu'il y a des tas de gens qui ont dit des tas de choses sur ce chiffre, 666. Mais il faut réfléchir spirituellement. Qui sera ce monstre, cet homme immonde ? Qui sera-t-il ? Un homme ? Un jour, il y a une bonne femme qui est venue, une espèce d'illuminée. « Un Seigneur m'a révélé, c'est Hillary Clinton, l'Antichrist. » La Bible dit que c'est un homme, hein. Bon, croyez n'importe quoi. Cet homme prétendra être le Christ, Dieu. Oui ou non ? Oui. Aujourd'hui, la grande prostituée et toutes ces dignes filles, les religions issues de la prostituée, cette grande prostituée ne prétend pas être Dieu. Si vous voyez le pape qui dit « c'est moi que je suis Dieu », mais ils vont dire « bon, frère, on va vous soigner ». Mais vous savez comment il se présente ? Juste comme le remplaçant de Christ. Vous allez me dire « c'est pas vrai ». Si, c'est vrai. Mais non, mais si, mais non, mais si, ma biche. Il se présente comme le remplaçant de Christ. Je vous le dis avec d'autres mots. Il se présente comme le vicaire de Christ. Vicaire, ça signifie remplaçant. Vous voulez pas me croire ? Ça m'est égal. Regardez dans un dictionnaire. Là, vous allez le croire. Vicaire, ça signifie remplaçant. Alors, sans faire de l'anticatholicisme primaire, voyons le titre papal qui est Vicarius Filii Dei. C'est du latin. C'est du latin. Et vicarius filii dei, ça veut dire vicaire du Fils de Dieu ou remplaçant du Fils de Dieu. Alors, que nous dit Jésus dans le livre de l'Apocalypse ? De calculer le nombre de la bête. Donc j'ai le droit de calculer moi aussi. Ils calculent tous, moi je calcule aussi. Je ne suis pas le seul à calculer comme ça, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a plein de gens qui croient ce que je vais vous dire là. Mais c'est plus à la mode en ce moment. Parce qu'il y a des Américains qui sont venus avec d'autres idées. Des trucs complètement farfelus qui sont simplement dus à leur interprétation par rapport à ce qui se passe en ce moment dans leur petite histoire. Mais la grande histoire qui dure depuis plus de 2000 ans, c'est l'histoire de l'Église de Jésus-Christ qui a été corrompue par le cheval blanc qui est rentré dedans, qui s'est transformé en cheval noir, puis, non pardon, en roux, en noir et ensuite en verdâtre, et il fait son boulot, il est parti pour vaincre, et ils sont vaincus maintenant tous ces gens-là. Il me dit, mais Michel, t'es sévère. Non, je suis pas sévère, je dis la vérité. Ils sont tellement vaincus que Dieu veut les vomir. Ils sont, pardon, dégueulasses. C'est le mot? Alors allons-y, calculons. Sachez que les lettres ont une valeur numérique. Vous connaissez les chiffres romains. Le V, c'est le 5. Vous savez que le U, ça n'existe pas. Hein, mais qu'on fait, on écrit V à la place de U. Le R, c'est pas un chiffre. Hein, etc., etc. Le I, c'est le 1. Le C, c'est le 100. Vous voulez pas me croire? Ça n'a aucune importance. Vous allez regarder dans le dictionnaire et là, vous croirez. Eh bien. Vicarius. V égale 5, I égale 1, C égale 100, A égale 0, R égale 0, I égale 1, V égale, le U c'est le U, hein, V égale 5, le S égale rien. Ça fait 112. Filii, F 0, I 1, L égale 50, I égale 1, I égale 1. Vous additionnez, ça fait 53. DI, D c'est 500, E c'est 0, I c'est 1, ça fait 501. Maintenant, 112, Vicarius, plus 53, Filii, plus 501, DI, ça fait 666, voilà. Cette bête sur laquelle est assise la grande prostituée, idolâtre, ivre du sang des saints, avec toutes ses richesses dont on a lu tout à l'heure, porte le nom de blasphème et son chiffre est 666. Remplaçant du Fils de Dieu, Vicarius Filii Dei. Pardonnez-moi si vous préférez que ça soit autre chose, mais moi c'est comme ça que je le vois. Alors je vous demande, si vous êtes certain que c'est faux, prouvez-le-moi. Moi je demande qu'à savoir, qu'à comprendre. Je sais que c'est pas à la mode de dire ça, mais tant pis pour la mode. Un, l'Antichrist sera un homme de pouvoir politique et financier, sans doute secrétaire de l'ONU, sans doute, peut-être bien que oui, à mon avis c'est très possible, je pense. Et le faux prophète, parce qu'il y a deux personnages, c'est son allié spirituel, sa sainteté, le pape. Et le politico-financier se débarrassera du pape au bout de 3 ans et demi. Ça, c'est ce qu'on trouve dans Apocalypse 17, 16, 17. Alors, on va le lire, si vous voulez. Apocalypse 17, 16, 17. Hein, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, est de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville et la royauté de... Non, ça n'a pas de sens, ma référence. Oui, c'est 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, ils mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Vous vous rappelez, je vous ai dit, elle a des ministres dans tous les villages. Une cloche sonne, sonne. Voilà. Donc, se débarrassera du pape. Voilà. Voilà donc où nous en sommes. Si vous ne croyez pas ça, ça n'est pas grave. Ça ne rentre pas en ligne de compte avec le salut. Vous pouvez très bien... Raphaël, par exemple, mon ami gitan, il ne savait pas ça. Je n'ai même pas essayé de lui expliquer, ça ne sert à rien du tout, il n'aurait pas pu suivre. parce que c'était pas un homme intellectuel habitué à jongler comme ça avec les textes, etc. Il savait pas lire, donc voilà. Mais vous croyez qu'il est perdu parce qu'il savait pas? Mais arrêtez. Maintenant, donc c'est pour vous dire, je ne crois pas qu'il faut croire ça pour être sauvé, pas du tout. Mais c'est bon de savoir. Dieu veut que nous sachions les choses pour que nous sachions dans quel temps nous vivons et qui est l'ennemi. Qui est l'ennemi? Il ne faut pas se tromper, l'ennemi. Si quelqu'un vous considère comme son ennemi, fuyez, laissez-le. Mais ne le considérez pas vous-même comme un ennemi. Évitez-le pour pas qu'ils vous tapent, parce qu'ils trahiront, etc., etc. Ils vendront même leurs parents. C'est terrible. Si je ne crois pas cela, je ne peux même pas croire qu'il y a un enlèvement. Je ne peux pas croire qu'il y a un enlèvement, parce que si je lis Matthieu 24, il n'y a rien de clair au sujet d'un enlèvement. Rien. Mais lisez Matthieu 24, il n'est pas question d'un enlèvement, il est question d'à un moment donné, Dieu va séparer les brebis avec les boucs, point. Mais ce n'est pas écrit qu'il y aura un enlèvement. Donc si je crois que Matthieu 24, je n'ai pas tout. Il faut que je voie aussi ce que l'Apocalypse dit. Il faut aussi que je voie ce que Paul dit. Il faut avoir, c'est l'analogie de la foi, c'est-à-dire l'ensemble des textes qui parlent de la même chose, qui font qu'on peut comprendre. Dans Matthieu 24, tout est mélangé. Et il parle sur plusieurs plans. C'est comme quand vous regardez, si je regarde, qu'est-ce que je vois? Je vois Stéphane devant moi, je vois une porte, je vois la cuisine, je vois des arbres, je vois une colline, je vois le ciel. Vous voulez que je vous parle de quoi? J'ai le choix, je peux vous parler de la friteuse que je vois dans la cuisine, là, juste à côté. Il y a des gens qui sont fixés sur la friteuse. Voilà, c'est tout. Mais il faut avoir une vue d'ensemble. C'est bien d'avoir une vue d'ensemble sur les choses que Jésus, dans sa grâce, nous fait de comprendre. Dans Matthieu 24, tout est mélangé. Il nous faut le livre de la révélation de Jésus, le livre de l'Apocalypse, pour mettre Matthieu 24 en ordre. Et Dieu a fait ça pour que ça soit caché aux sages et aux intelligents, et surtout aux malfaisants. Il dit trois choses. Il dit « Heureux celui qui lit ». Heureux celui qui entend, dans le sens de comprendre, et heureux celui qui garde des choses qui sont écrites dans le livre, donc dans le livre de l'Apocalypse. Et le mot heureux, c'est le mot acheri en hébreu, qui signifie en marche sur une route de rectitude. Donc tu es déjà en route, tu es déjà en marche sur une voie droite, même rien que si tu lis, même si tu ne comprends pas. Raphaël, il se faisait lire la Bible. Camélia, elle se faisait lire la Bible. Elle se la faisait tellement lire qu'on aurait dit qu'elle la connaissait par cœur. Violette, mais alors, moins intello que ça, tu meurs. D'ailleurs, elle disait, j'ai beaucoup reçu de ma mère, mais je suis pas aussi sage. À ça, tu parles. Quand un jour, elle a rendu témoignage à la chapelle, et elle a dit ça, et son mari a dit, ça c'est bien vrai. Mais elle rendait témoignage aux gens, et les gens disaient, et vous dites que vous savez pas lire, mais comment vous avez appris tout ça? J'écoute. Elle disait, j'écoute. Je me fais lire la Bible. Elle disait pas la Bible, elle disait la Bible. Je me fais lire la Bible. Et puis j'écoute les prédicateurs. Et je renregistre tout. Et je me rappelle de tout. Parce que j'aime la parole de Dieu. Et elle pouvait la partager. Et parce qu'elle la partageait, Dieu la renouvelait. Et elle lui faisait comprendre des choses. Elle était capable. Elle a amené je ne sais pas combien de personnes à Jésus. Elle priait pour des baptêmes dans le Saint-Esprit. C'est une femme extraordinaire. Mais elle faisait tout ça dans la discrétion. Parce que chez les gitans, ce sont des machos. Il ne faut pas que les femmes prennent la parole. Elle la prenait quand même, elle avait bien raison. Mais discrètement, pour ne pas être embêtée, elle avait raison aussi. Voilà. Donc, heureux, vous êtes en marche, même si vous ne faites que de lire. Mais si vous comprenez, c'est encore mieux, puis c'est encore mieux si vous gardez ces choses, si vous les gardez précieusement pour pouvoir les partager à ceux que vous jugez assez dignes de les écouter, de les entendre, et voilà. Vous devez bâtir votre vie sur ces paroles saintes, pas sur un échafaudage de soi-disant prophéties, de ces espèces de prophètes qui ont l'outrecuidance de donner des dates sous couvert de science, de fausses sciences, frères et sœurs. Il faut l'esprit de Jésus pour saisir ces choses. Même si on ne comprend pas, on est déjà en marche. C'est ça qui est bien. Amen. Même si on ne comprend pas. Si on les lit, déjà ça suffit pour être en marche, pour aller de l'avant, c'est bien. Alors demandez au Seigneur, il vous donnera de passer d'un stade à l'autre pour bien comprendre les choses. Mais soyez humble, si vous n'êtes pas humble, c'est foutu, c'est râpé. Demandez alors, plutôt que de comprendre, demandez l'humilité. Déjà premièrement, l'humilité c'est pas mal, hein, c'est aussi quand même un fruit d'esprit, je crois, du moins, hein, si je me souviens bien. Donc, demandez au Seigneur, il vous donnera la lumière dont vous avez besoin et que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, je te remercie de m'avoir permis de dire ces choses encore une fois et je te prie que ceux qui écoutent là puissent comprendre et s'engager pour te servir et marcher correctement. Je te remercie Seigneur Jésus de les bénir et de les aider, chacune d'entre eux. Merci mon Jésus. Amen. Et pardonnez-moi, je crois que j'étais très long ce matin. Ouh là là, vraiment, j'étais trop long, pardon. Dieu vous bénisse, au revoir.